Gwenaëlle Guerlavet, bonjour.
Bonjour.
Gwenaëlle Guerlavet, vous êtes l'une des co-auteurs de ce magnifique ouvrage Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Alors vous le signez avec Pierre-Marie Terral et avec le photographe Arnaud Spény, publié aux éditions toulousaines Privat. Alors dans sa préface, Carole Delga donne la ligne éditoriale de ce livre, me semble-t-il. Elle nous dit « L'action politique doit s'incarner et s'enraciner ». Vous mêlez l'homme et le terroir dans ce livre, Gwenaëlle Guerlavet.
Oui, c'est vrai que c'était pour nous très très important en fait de ne pas faire uniquement un livre de beaux paysages, même si on commence par ça, parce que en fait cette région, elle est et elle sera ce que les hommes en font. On le raconte bien dans le livre comment les hommes ont façonné le paysage, l'histoire de cette région. Et aujourd'hui, cette région, elle reste encore pour beaucoup administrative. Voilà, ça va faire bientôt un an. Mais moi, je suis souvent surprise quand je rencontre les gens dans la rue qui viennent me voir pour me parler un peu du livre. Là, ça commence. Il y a des gens qui me disent « Ah bon, mais Lourdes, c'est chez nous ?» Bah oui, c'est chez nous maintenant.
Je dois
en
dire,
effet.
J'ai eu le même étonnement quand j'ai ouvert le livre. Vous avez une photo sur Lourdes et je me suis dit « Ah oui, tiens, c'est vrai, on va jusqu'à Lourdes. »
Et oui, c'est pour ça qu'on a voulu même d'ailleurs mettre une carte pour qu'on découvre en fait nos nouvelles frontières.
C'est ça, l'ampleur de cette surface.
Qui est, en fait, notre région, elle est grande comme un pays. Elle est donc plus grande que l'Irlande, c'est le Benelux. Donc,
5,7 millions d'habitants.
C'est énorme.
Sur un territoire de, vous connaissez la surface ?
Le nombre de kilomètres carrés, je ne l'ai pas en tête précisément. Mais en effet, en termes de géographie, en fait, en termes de kilomètres, on est une des plus importantes régions de France, la troisième. Et en termes de population, on est cinquième, mais on va grimper en fait. À l'horizon 2020, on devrait être la troisième région en termes de population. Parce qu'en plus, on est une région qui attire énormément de monde, que ce soit Montpellier, que ce soit Toulouse, même évidemment les parties plus rurales. Donc on va vraiment être une région qui va compter désormais dans le nouveau paysage de toutes ces régions, de ces 13 régions. Et c'est vrai que certains pouvaient être, et le sont encore d'ailleurs, dubitatifs quant au fait de regrouper comme ça des régions pour qu'elles soient plus fortes. Moi, à force de travailler sur ce livre, en fait, je me rends compte que si ça peut vraiment avoir une pertinence, il faut juste qu'on s'y habitue, en fait.
Et ce livre peut nous y aider. Alors, ce livre, c'est vraiment un livre splendide, hein, en papier glacé, avec de très nombreuses photos. Il y en a au moins, de toute façon, une par page, si ce n'est trois, d'Arnaud Spény, nous l'avons dit, dans un format à l'italienne, 30 cm sur 24, 342 pages, on se disait tout à l'heure bien 2 kilos. Alors c'est une entreprise éditoriale colossale que cela pour les éditions Privat.
Ah, c'est clair que là, pour le coup, il y a pas mal de livres quand même qui sortent dans les éditions Privat. Là, je sais qu'en ce moment, je crois qu'il y en a 8 ou 9 qui sortent en même temps. Celui-là, il a une place à part. Il a une place à part parce que, d'abord, il y a eu un soin tout particulier qui a été apporté au vu des enjeux qui sont vraiment d'essayer de montrer cette région aux habitants, la montrer. Poser des mots, montrer des choses, des photos. Arnaud Spany me disait que je crois qu'il a fait à peu près 15 000 photos en tout. Donc, il y a eu une grosse sélection.
Alors, il y a beaucoup de photos, mais il n'y en a pas 15 000.
Non, il n'y en a pas 15 000, justement.
Mais il y en a énormément.
Et c'est pour dire que, justement, il y a une sélection très, très importante qui a été opérée de ce point de vue-là.
Alors oui, quelle a été votre partie dans ce travail, Gwenaëlle Guerlavet ?
Déjà, une grosse production écrite, puisqu'en tout, je ne sais pas si ça parlera aux auditeurs, mais c'est 320 000 signes. Donc, c'est sachant que les articles font en général 2000 signes, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'articles. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les éditions Privat m'ont appelé, mais maintenant, il y a déjà un an et demi, deux ans.
Ça n'a demandé que deux ans. Oui, c'est quand même c'est du temps, mais...
En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a su que Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées allaient se marier, les éditions Privat, en fait, m'ont appelé pour commencer à réfléchir à l'origine. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé fabuleux dans ce travail, c'est qu'en fait, la page était blanche pour nous aussi.
Pour Pierre-Marie Terral et vous-même.
Alors en fait, à l'origine, Pierre-Marie Terral n'était pas encore dans l'équipe. Ce qui s'est passé, c'est que le directeur des éditions Privat, Philippe Terrand, donc, et moi-même, on a commencé déjà à se dire, mais qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Quel est l'objectif ? Et c'est vrai que j'ai retrouvé un peu nos notes d'intention il y a quelques temps. C'est toujours intéressant de les relire comme ça an et demi après. Et encore une fois, l'objectif était vraiment de se dire, voilà, il faut impérativement que les habitants s'emparent de cette réalité. Faut vraiment, voilà. Et donc, il faut les y aider en commençant à leur montrer ce qu'est cette région et quelque part en la valorisant et en les rendant fiers. Je pense que ça, c'était aussi très, très important. C'est-à-dire que, notamment, je le vois beaucoup côté montpelliérain, on a tendance un peu à l'autoflagellation, à se dire que finalement, on est trop petit, on n'est pas bien, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on a du chômage. Hein. Et en fait, le principe était de dire, mais non, mais on peut être fier. Et puis, surtout, l'autre objectif était d'arrêter, et ça, c'était compliqué il y a 2 ans parce que ça demandait vraiment de changer de logiciel, on arrête de penser en ex-Languedoc-Roussillon, ex-Midi-Pyrénées, et désormais, on raisonne en alors Occitanie, sachant qu'à l'époque, on n'avait pas encore le nom, c'est pour ça que le livre finalement est sorti plus tard. C'est-à-dire que pendant un certain temps, nous, on parlait de grande région.
C'est ça.
Voilà, le bébé était presque né, mais il manquait son nom de baptême. Donc, on a dû attendre, en effet, fin septembre, début octobre, pour l'avoir définitivement. Donc, les éditions privées m'appellent, donc on commence à vraiment commencer à travailler la structuration en fait, du livre, qu'est-ce qu'on voulait mettre dedans, comment on voulait faire. Pour moi, c'était une chance formidable, parce que c'est vrai qu'habituellement, quand on est auteur et qu'on nous commande un ouvrage, le sommaire est déjà fait. À l'époque, en plus, du coup, il n'y avait pas de présidente de région, donc il n'y a pas eu d'intervention non plus de politique qui aurait voulu éventuellement tirer un petit peu l'objet de façon... Non, on a vraiment pu le travailler de façon complètement indépendante et complètement sereine. Et puis, quand il a commencé à être question d'écrire, là, je dis, oulala, là, c'est une montagne pour moi.
Pic-Saint-Loup.
Au moins le Pic-Saint-Loup, il y a quand même, parce qu'en effet, j'habite au pied du Pic-Saint-Loup, donc il y a une belle photo du Pic-Saint-Loup. Mais en effet, je me suis dit, ça, c'est énorme comme travail, et notamment sur la partie historique. Je ne me sentais pas, en fait, de le faire. Je ne me sentais pas non plus légitime. Je ne suis pas historienne. Donc, j'ai dit aux éditions privées, ça serait quand même bien de prendre un super spécialiste. Et donc, du coup, ils m'ont proposé Pierre-Marie Terral. Et je trouvais qu'au final, ça faisait un beau trio parce que moi, je suis côté Montpellier. Arnaud Spani, alors je dis qu'il est de Toulouse, mais en fait, il est du Comminges. Mais bon, voilà, il y a. Et Pierre-Marie Terral, en fait, est de l'Aveyron. Donc, finalement, faisait l'union de cette région. Et c'était super intéressant parce que eux m'apprenaient à découvrir certains aspects de l'ancienne région ex-Midi-Pyrénées. Et vice-versa, quand Arnaud Spani est venu faire des photos côté Méditerranée, du coup, je donnais mes petites astuces, mes petits trucs. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé en plus autour de ce livre.
Donc, une étroite collaboration pour faire ces 342 pages que vous avez divisées en 4 chapitres pour être rentré un peu plus dans les détails du livre. Une terre de contraste pour le premier, on va y revenir. Le second, la partie historique que vous évoquiez tout à l'heure, une histoire en héritage, un destin en partage. Les titres sont aussi bien envolés, bien levés, bien tournés. La troisième partie, le patrimoine architectural. Et la quatrième, une région coup de cœur. Alors, les trois premières parties, géographie, histoire, architecture, sont finalement installées d'office quand on prépare, quand on présente une région, un lieu, etc. Mais la quatrième, la région coup de cœur, comment est-ce que celle-ci, vous l'aviez imaginée, puis finalement construite, Gwenaëlle Guerlavet ?
En fait, cette dernière partie, c'était vraiment un choix de ma part que j'ai défendu auprès des éditions privées, parce que c'est vrai que de façon classique, on parle d'histoire, de patrimoine, et puis on aurait pu terminer là. Et en fait, j'aurais dit non, on parlait tout à l'heure de l'humain, j'aurais dit non, mais il y a quelque chose qui est fondamental, c'est ce que j'appellerais l'art de vivre, comment on vit.
L'art de vivre, c'est exactement cela.
Comment on vit dans cette région, et parler des hommes, en fait. Et alors, au début, on avait appelé ça les Sud. Enfin, au début, c'était le Sud. Après, on se dit, non, c'est pas le Sud, c'est les Sud. Parce que, de fait, il y a une grande diversité presque entre ce mariage, entre Sud-Est, Sud-Ouest. Et puis après, on se dit, finalement, assumons nos choix. Et c'est une région coup de cœur parce qu'en fait, quelque part, ce sont nos coups de cœur pour cette région. Ce livre, c'est un peu une déclaration d'amour, en fait. Parce que moi, j'ai découvert cette région il y a une quinzaine d'années. J'ai décidé de définitivement y poser mon encre alors que j'ai beaucoup bourlingué. Et je pense qu'il fallait assumer le fait qu'il y a des choses qui nous plaisent dans cette région, qui font partie de son identité, quelque part. Et donc là, on a commencé à travailler sur... des choses aussi importantes que, évidemment, l'occitan, l'occitanie.
La langue.
La langue, la langue, la culture occitane. Il y a aussi, bah, évidemment, des passages sur des choses plus spécifiques comme la tauromachie, ou le rapport, en tout cas, pas forcément la tauromachie, mais le rapport au taureau. Puisque de fait, il y a aussi les courses camarguaises et un petit peu de courses landaises côté plutôt ouest.
Albi. Peut-être même pas Albi. Ouais.
Non, pas jusqu'à Albi, ça reste quand même sur la Haute-Garonne.
Oui.
Mais ils ont quand même cet aspect-là aussi. Alors, on ne parle pas de corrida, mais voilà, ils ont des sur la partie gersoise aussi, comme ça. Plus on se rapproche évidemment vers l'ouest, plus on peut en trouver. Et puis évidemment, dans ce chapitre-là, il y a toute une partie sur la gastronomie.
La gastronomie.
Le vin.
C'est une partie de portrait. Alors là, les photos sont complètement différentes des trois premières parties. Ce sont des portraits en noir et blanc. En noir et blanc, d'hommes et de femmes, et puis qui donnent chacun un texte, une phrase sur qu'est-ce que représente l'Occitanie pour eux.
Oui.
Et donc ça fait un côté très personnalisé finalement de la région.
C'est vrai qu'on voulait en fait à la fin du livre, là encore c'est un parti pris qui peut changer un peu des classiques, on voulait terminer en donnant la parole aux habitants d'Occitanie. Voilà. Et quelque part on leur a presque dit de formuler un vœu. Un vœu pour les prochaines pages à écrire. Et on a fait une sélection, alors ça, là, c'était très compliqué, d'une dizaine de personnes. On voulait évidemment
très compliqué.
Choisir 10 personnes sur l'ensemble de la région. On voulait. Alors, à la fois, moi, j'ai vraiment défendu homme-femme. Hein, je voulais qu'il y ait une forme de parité. Ça me paraissait évident.
Inconnu, connu,
c'est-à-dire qu'on a en effet Béatrice qui, elle, est plutôt gardienne de refuge, on a Maxence qui est un tout petit garçon qui joue au rugby, et puis on a Jean Tirole, prix Nobel.
Pierre Soulages,
Marie-France Marchand-Bailey qui est quand même la patronne, on n'a pas beaucoup hein, des patronnes de presse
ouais.
Avec le groupe La Dépêche, on a Moed Altrade. Évidemment, qui est un chef d'entreprise maintenant connu ici, et puis président du club de rugby. Enfin, voilà,
il y a cette dame avec son camion qui transporte son petit marché ambulant, itinérant.
Tout à fait.
J'ai oublié tout de suite son prénom. Mais...
Alors, en fait, elle ne fait pas partie de la liste des 10 à la fin. Mais en effet, elle fait partie, quand on parle de la partie gastronomie et art de vivre. Moi, je pense que cette région, en fait, elle a un côté locavore. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, dans la proximité de là où on habite, tout trouver. On peut trouver de la viande locale, on peut trouver des légumes, on peut trouver des fruits, on peut trouver du lait, on peut trouver du beurre, on peut trouver du sel. On est une région où il y a du sel. Ce qui va peut-être nous manquer, c'est peut-être le café.
Donc vous militez pour une autarcie occitane.
Pas une autarcie, parce que c'est un côté très fermé. Mais par contre, en effet, moi, je milite sur le fait qu'on a des super beaux produits de terroir dans la région, avec une vraie qualité, puisqu'en plus, on est la première région de produits bio. Donc, il y a une vraie attention à ce qu'on fait dans cette région. Et je pense que du coup, ça vaut le coup. Aujourd'hui, les gens font attention quand même à ce qu'ils mangent. Et moi, non seulement je pense qu'il faut consommer local le plus possible, consommer si possible bio ou en tout cas avec une forme d'agriculture raisonnée, parce que aujourd'hui, c'est important de se faire quelque part du bien. On sait aujourd'hui que la nourriture, c'est important aussi pour à l'intérieur. Se faire du bien.
On va se faire du bien aussi avec Léo Ferré qui a chanté On dirait le Sud.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps et la vie sûrement. Et toujours en été, y y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens, il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie surprend. Plus d'un million d'années. Et toujours en été.
Gwenaëlle Guerlavet, vous êtes co-auteur de ce somptueux ouvrage Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, que publié aux éditions Priva, que nous avons commencé à évoquer juste avant Léo Ferré, on dirait le Sud. Alors nous avons parlé beaucoup de cette quatrième partie, les photos en noir et blanc, les intervenants, l'humain dans cette région occitane. Mais il y a quand même avant ça trois grosses parties qui sont fondamentales. Hein. L'architecture, le paysage et l'histoire.
Oui. D'abord, on a commencé par un portfolio. Alors là, pour le coup, de paysage. Et ça s'appelle Terre de Contraste. Pourquoi ? Et ça nous paraissait important. C'est de dire, OK, on est une région, on est une, mais on est une plurielle. Ne pas gommer en fait les différences entre à la fois les départements, les zones géographiques. Je pense que ça fait partie de la richesse en fait de c'est cette ça. Région.
La différence nous rassemble.
Exactement.
C'est le jingle d'FM+.
Ben, c'est ça. Voilà.
On est
FM+. Voilà. Ce livre est FM+. On est dedans. Et donc terre de contraste. Voilà où on donne en fait, en effet, des photos. Là, c'est des grands panoramas photos, double page.
C'est ça.
Avec à la fois la mer. La montagne, l'arrière-pays,
les chevaux,
la plaine, les chevaux, enfin voilà.
Les bateaux.
Complètement. Montrer vraiment voilà, en quelques photos cette région. Après, il y a l'aspect historique qui évidemment est fondamental. C'est un peu tarte à la crème, mais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et finalement, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de passages entre ces deux anciennes parties de la région Est et Ouest, et que même si la construction pouvait paraître administrative, voire pas justifiée pour certains, quand on regarde l'histoire, finalement, il y a des passerelles. Les comtes de Toulouse, ils allaient jusqu'à Beaucaire. Ils ne s'arrêtaient pas tout d'un coup aux portes de Carcassonne et se dire « on s'arrête là ». Non, eux, ils allaient très très loin. Mmh. Quand on voit par exemple le canal du Midi, c'est un vrai trait d'union. C'est, Toulouse 7, c'est un vrai trait d'union.
Absolument, ça traverse.
Complètement.
Ça traverse.
À l'époque de la Septimanie, comme l'aurait sans doute rappelé Georges Frêche, cette région était déjà une. Bon, alors c'est vrai, il n'y avait pas la partie catalane, je m'excuse auprès de mes amis catalans, mais en tout cas, il y a déjà eu des découpages comme ça qui étaient importants. D'autres choses, je pense, du point de vue historique, c'était important de montrer à quel point cette région, ça a été une terre d'accueil. Très important, ça, moi, je
trouve. Terre d'accueil des pays du Sud.
Oui, évidemment, des pays du Sud. Alors d'abord, évidemment, il y a eu les Italiens, l'Afrique. Les Espagnols, mmh. L'Afrique du Nord.
L'Afrique du Nord, par 7. Ouais.
Tout à fait. Et puis, il y a eu quand même des épisodes aussi importants que la retirada. Alors même si, pour le coup, il y a des fois, on n'a pas été terre d'accueil, dans le sens où on les a plutôt repoussés au début. Mais je pense qu'on s'est réapproprié cette histoire et je pense qu'on a demandé pardon de ce point de vue-là. Et c'est tout ce métissage de population, d'invasion, d'arrivée, de vagues. Montpellier, par exemple. Montpellier, à l'époque du Moyen-Âge, c'était génial. Je veux dire, les Juifs, les Arabes, les protestants,
les catholiques.
Les catholiques.
On peut les citer aussi.
Mais oui, bien sûr, tout le monde était là. Donc, et ça faisait la force. Ça faisait la force. Je veux dire, c'est comme ça qu'a été créée l'université de médecine, qui est la plus ancienne au monde. Donc, tout ça, c'est important, en fait, je pense, de le rappeler. Donc, cette partie historique. Et puis après, la partie patrimoine, où là, on a quand même essayé de se dire, bon, on va prendre les 13 départements, parce qu'il y en a 13. Hein,
On n'a pas dit, c'est vrai.
Et on s'est dit, bon, on va faire évidemment un papier sur chacune des préfectures. Et on va essayer de sélectionner deux villes ou villages remarquables par département. Là, on voulait qu'il y ait une forme de traitement un peu égalitaire pour montrer, encore une fois, la diversité de cette région.
Vous citez les sites inscrits à l'UNESCO, par exemple.
Oui. Ça, c'était pour moi très, très important. C'est-à-dire que c'est un élément d'abord de fierté. On en a 8. C'est une des régions qui en a le plus. Et puis, il y en aura peut-être d'autres, puisqu'en plus, aujourd'hui, on a des candidats encore à ce type de classement. C'est d'abord un élément de fierté, parce que le pont du Gard. Pont du Gard, c'est merveilleux. La cité de Carcassonne, je vais y arriver. Albi, la cathédrale d'Albi. Il y a tout un tas de sites comme ça classés à l'UNESCO, le canal du Midi. Et c'est aussi un point de repère pour les étrangers. Quand ils viennent, les étrangers en France ou dans une région, c'est un point de repère pour eux d'aller voir ce type de site parce que pour eux, c'est forcément synonyme d'abord de grande qualité et de site exceptionnel. Donc, évidemment, pour moi, il fallait parler des sites classés à l'UNESCO. Et puis, on fait aussi des focus sur des particularités. Je pense, par exemple, au Château Cathare.
Oui.
Je pense...
Là aussi, très particulier dans la région.
Ah bah oui, là, c'est vraiment...
Les Cathares sont nuls par ailleurs.
Exactement. Là, c'est vraiment ce qui fait partie de l'identité de cette région. D'abord parce que c'est maintenant inscrit géographiquement. Ce sont des points de repère. C'est citadelle du vertige. Moi, j'en ai visité un certain nombre, moi qui ai un peu le vertige. Et des fois, je me suis fait bien peur, en plus, avec le vent qui souffle là-dedans. Enfin, et évidemment, ce sont des points de repère aussi historiques. Les Cathares. C'est, les guerres de religion, ici, on sait ce que c'est. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Et puis, alors peut-être plus sur la partie est, il y a aussi les bastides, avec notamment ce format très particulier, avec des croisillons, en fait. Voilà, ça fait vraiment un carré dans lequel on tire des bandes comme ça, verticales et horizontales, et ça fait des... Vu du ciel, c'est magnifique parce que du coup, on voit bien en effet ce quadrillage. Et puis, autre chose que moi, j'avais envie de faire découvrir peut-être plus à la partie est toulousaine, c'était le patrimoine maritime. Parce que cette région quand même, ex-Languedoc-Roussillon, elle offre quelque chose de formidable à cette nouvelle région Occitanie. C'est la façade méditerranéenne. Et du coup, ils vont découvrir les phares, les tours, les bateaux. Ici on restaure aussi les bateaux, des fêtes comme les joutes à 7 hein, qui restent extrêmement populaires. Donc on apporte quand même tout ça et ça je pense que c'est important de le faire découvrir aussi à d'autres qui sont peut-être plus dans l'Aveyron, le Lot, le Gers.
Absolument. Alors ce que j'ai envie de rajouter aussi, que dans cette partie historico-géographico-historique, vous partez finalement des grottes de Niaud, de la grotte de Niaud, jusqu'au tarmac de l'usine Airbus à Toulouse. Donc là aussi, l'industrie, on va dire, plus contemporaine, vous ne l'avez pas oubliée.
Non, parce qu'en effet, ce qui me paraît important aussi, c'est d'écrire les prochaines pages. C'est ça. Et donc, de dire aussi au lecteur, qu'est-ce que notre région aujourd'hui ? Aujourd'hui, notre région, par exemple, elle a le plus grand vignoble du monde. Enfin, on a un nombre de cépages incroyable. Et en même temps, c'est une région de pointe dans l'aéronautique, avec en effet ce mastodonte qui est Airbus, mais pas que, parce qu'il y a tout un tas de sous-traitants. On est aussi évidemment très fort sur tout ce qui est recherche et développement. On peut parler de la santé, par exemple. Notamment dans le domaine du cancer, avec Toulouse, avec Montpellier. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'agroalimentaire, avec en effet cette première région bio de France. Donc ça me paraissait important de montrer quand même le panorama économique, même si on gomme pas certains aspects, par exemple le chômage, qui est terrible.
Il est évident. Ouais.
Qui est terrible dans cette région, mais en même temps, il y a une dynamique. C'est tout le côté ambivalent de cette région. C'est une région très dynamique, avec un fort potentiel. Mais en effet, à côté, le chômage, la pauvreté. Et donc, je pense vraiment que c'est une région qui demande à s'inventer ou se réinventer, en fait.
Oui, vous citiez donc cet aspect rural aussi, hein, qui est très présent, autant d'ailleurs que les villes.
Hein. Oui.
Vous mettez autant en valeur, on citait tout à l'heure Carcassonne, Albi, Rodez, Mende, et puis des endroits plus féerique, hein, montagneux, notamment dans les Pyrénées.
Oui.
Là, on est avec ces sommets enneigés. Non, c'est...
Et puis, il y a les Causses et les Cévennes
les
aussi,
et les Cévennes.
Moi, que j'aime vraiment beaucoup. Faut pas oublier quand même que la majeure partie des habitants de cette région vivent dans des parties rurales, dans des villages. Moi, j'aimais beaucoup l'expression, je l'ai découvert a posteriori de Carole Delga, la présidente de région, qui parlait pour la partie Midi-Pyrénées de Blanche-Neige et les Sept Nains. Et en fait, Blanche-Neige, c'est Toulouse. Et puis, les Sept Nains, ce sont les autres villes autour. Et c'est vrai que, notamment hein, sur la partie comme ça, ouest, Toulouse focalise beaucoup le regard, mais en fait, la majeure partie de la population habite hors Toulouse. Et hors Toulouse, ce sont de petites villes. Nous, on a plutôt un chapelet de grosses villes. On a Montpellier, on a Nîmes, on a Perpignan, on a Béziers,
Narbonne.
On a Carcassonne, Narbonne, etc. Donc, on n'a pas forcément cette image-là, mais c'est très, très marqué côté ouest, côté Toulouse.
Gwenaëlle Guerlavet, je crois qu'on peut dire que c'était vraiment un très beau livre, digne d'un sapin de Noël probablement.
Ah, j'espère en tout cas, moi je le vois bien, coin du feu, tranquille, en train de feuilleter ça, montrer ça en famille avec les enfants, en buvant un petit verre de vin de notre région par exemple.
Par exemple. En tout cas, un grand merci Gwenaëlle Guerlavet d'être venue nous présenter ce magnifique livre « Occitanie, Pyrénées, Méditerranée » aux éditions Priva. Des éditions toulousaines et qui sera disponible ou est disponible dans toutes les librairies de France et d'Occitanie.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Et voilà, on est calé à...